l'avenir le plus long terme, et j'y reviendrai. Effectivement, on a besoin de parler plus. Alors, on parle avec la majorité gouvernementale, mais on est dans une situation, effectivement, vous n'appartenez pas à la majorité gouvernementale, et vous appartenez, selon les textes, nous formons ensemble, selon les textes, une majorité parlementaire qui n'est pas constante, mais qui se retrouve. Je peut-être pour mettre un peu de baume au cœur aux militants, parce que parler de la rentrée, ce n'est pas que parler de la diversité de la gauche et des différences qu'il y a entre nous. Je vais prendre un thème qui aurait pu être dans ton introduction, Olivier, si le gouvernement avait conclu autrement et qui aurait pu venir allonger la liste des désaccords et des frustrations. Mais comme il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de désaccord, on peut aussi en parler, la réforme pénale. La réforme pénale telle qu'elle a été arbitrée cette semaine par le Premier ministre, avec la suppression des peines planchers, la création d'alternatives à la prison, qui est une vraie rupture avec la politique pénale sarkozyste. Et on a eu un débat, ça n'a échappé à personne, il y a eu un petit débat dans la gauche et au-delà simplement de la majorité gouvernementale. Ce débat s'est conclu sur une proposition, un projet du Premier ministre qui va venir à l'Assemblée nationale et au Sénat dans l'année qui vient, et qui, je pense, nous permettra de nous rassembler. Je tiens à le dire, parce que sinon, si ça n'avait pas été conclu comme ça, ça aurait probablement été dans la liste des courses. Donc, autant quand même qu'on satisfasse de temps en temps de ce qui peut nous satisfaire. Alors, je vais peut-être quelques mots d'abord. Partons sur les sujets les plus lourds et les plus mondiaux, pour en venir après au plus particulier, à partir du global pour arriver au local. Tu disais, Olivier, préoccupé par les menaces de guerre en Syrie. Comment dire ? Moi, je suis déjà très préoccupé par la guerre en Syrie, par la guerre civile. Je ne suis pas préoccupé par demain les menaces de guerre en Syrie. Je suis préoccupé déjà par ce que je vois au quotidien en Syrie, les dizaines de milliers de morts d'une guerre civile. Centaines de milliers de morts, ça fait des dizaines de milliers. On a plus de 100 000 morts, bien entendu. 100 000 morts, c'est difficile à dire, mais... Et les images qui viennent régulièrement, je suis préoccupée par les otages, les journalistes otages en Syrie aussi. Je pense qu'on peut, à cette étape-là, y songer et faire passer des messages pour dire que nous attendons avec impatience leur retour. Donc la préoccupation, elle est immédiate sur la Syrie. Bien sûr, il faut une solution politique, mais il y a aussi la question qui est posée, c'est à quel moment une communauté internationale... À quel moment on dit stop ? Est-ce que lorsqu'on a atteint, comme c'est le cas, plusieurs fois, et là probablement avec des preuves patentes, la certitude qu'un gouvernement pratique un crime contre l'humanité, contre son propre peuple, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, la nécessité internationale, humanitaire, de dire stop pour les pays qui ont la capacité diplomatique, politique et militaire, de sanctionner. Bien sûr, le droit d'ingérence fait débat, mais l'indifférence fait aussi débat. Et à quel moment pensons-nous que cette banalisation du crime, sans intervention, sans réaction, devient, d'un certain point de vue, l'indifférence et la validation ? Et je pense, le président de la République pense, les États-Unis pensent, et beaucoup de pays pensent, la Ligue arabe, nous ne sommes pas seuls, que le gouvernement syrien a atteint là un seuil qui fait que nous ne pouvons pas continuer de nous contenter de constater le blocage au Conseil de sécurité. Alors, bien entendu, la frappe militaire, parce qu'il n'est pas question d'intervention terrestre en Syrie, il n'est pas question, la frappe militaire, la sanction... s'accompagne et est complémentaire de la recherche d'une solution politique et d'une solution politique durable en Syrie. Mais je tiens à dire aujourd'hui qu'on ne peut pas perpétuellement considérer que quasiment par nature, l'intervention militaire serait dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est aussi le laisser-faire et l'indifférence internationale. Et c'est dangereux d'un point de vue même éducatif et philosophique pour l'ensemble des peuples et l'ensemble des régimes de cette planète. Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais nous assumons cette très éducatif. Moi, il y a des jeunes ici, mais vous avez des enfants, vous en croisez. L'interpellation quand même de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on laisse faire et qu'est-ce qu'on fait. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre aujourd'hui simplement à des jeunes qui m'interpellent quand ils voient les images qui ne sont pas des images trafiquées quand même, mettons-nous d'accord là-dessus, c'est pas deux fois, c'est pas de nouveau l'Irak, c'est pas de nouveau les mensonges, les bullshit de Bush, c'est pas de nouveau ça, c'est une quasi-certitude. C'est une certitude qu'il y a eu massacre et utilisation des gaz contre la population, et c'est une quasi-certitude que ces massacres proviennent bien du gouvernement de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qu'on dit à des jeunes aujourd'hui qui nous interpellent en nous disant « mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le laisser-faire ?» Ça fait partie des débats que nous pouvons avoir ensemble, mais que nous aurons effectivement cette semaine au Parlement, je pense, puisque le président de la République, enfin le gouvernement, pardon, le Premier ministre, a décidé de convoquer le Parlement. Deuxième sujet que tu as évoqué, la question de la réforme des retraites. Et puis après, je dirai quelques mots plus larges. La question de la réforme des retraites, nous aimerions, bien entendu, garantir pour toujours une réforme, une non-réforme des retraites, en fin de compte. Voilà. On ne change rien, ou juste on revient à la réforme de 80. Et on revient à 80. On revient à 80.
Vous pourrez intervenir après. Voilà.
Ce que je veux dire, c'est que cette réforme des retraites est incontestablement la première réforme de gauche depuis 1981, depuis celle de 80 sur les retraites. Je vais vous en donner quelques éléments. Quelques éléments. Le compte pénibilité. Depuis le temps qu'on parle de la prise en compte de la pénibilité au travail, pour la première fois, un gouvernement crée réellement un compte pénibilité qui va permettre à ceux qui ont commencé de travailler tôt et avec des métiers pénibles de partir plus tôt que les autres. Premier aspect. Deuxième aspect, les retraites des femmes. Les retraites des femmes. La prise en compte du travail à temps partiel dans le calcul de la retraite des femmes, c'est-à-dire la non-pénalisation pour les femmes du travail à temps partiel, est une réforme que les syndicats, nos formations politiques, les organisations féministes réclament depuis des années. Enfin, pour la première fois, le temps partiel ne va plus être pénalisant pour les femmes comme il l'a été jusqu'à présent. L'égalité des retraites entre les hommes et les femmes est un sujet majeur de ce quinquennat. Troisième sujet en ce qui concerne les jeunes, la capacité de racheter des points de retraite avec une aide de 1000 euros. Ok, avec une aide de 1000 euros qui leur est accordé pour racheter des points retraite. Et puis enfin, en ce qui concerne l'allongement de la durée de cotisation, est-ce qu'on peut totalement exclure un retour à meilleure fortune? Rien n'est inscrit dans le marbre, c'est pas constitutionnel. Qu'est-ce qui nous dit qu'en 2020, ou si on croit un tout petit peu quand même au fait qu'on peut faire avancer les choses dans ce pays, qu'est-ce qui nous dit qu'en 2020 ou en 2025, nous n'aurons pas retrouvé un équilibre démographique entre les actifs et les inactifs qui nous permettra, si c'est possible, de nouveau de revoir une réforme des retraites qui soit plus favorable aux salariés. Mais l'allongement de la durée de cotisation d'un trimestre tous les deux ans pour les générations nées après 1973, c'est quand même le choix fait aujourd'hui, ce report, parce que certains points de vue, c'est vous, j'entends ce que tu dis, et on discute avec la droite qui nous disent cette réforme des retraites, en fin de compte, n'est pas suffisante par rapport à ce qu'on en attendait. La droite voulait qu'on revienne sur l'âge légal de départ à la retraite, qu'on allonge beaucoup plus rapidement la durée de cotisation, que l'on s'attaque dès aujourd'hui à la suppression des régimes spéciaux, que l'on prélève, que l'on instaure une contribution CSG, prélèvements fiscaux, baisse du montant des pensions pour les retraités. Nous n'avons fait ni la CSG, ni le recul de l'âge légal de la retraite, ni la remise en cause du système de retraite des fonctionnaires, ni la remise en cause des régimes spéciaux. C'est-à-dire que dans la confrontation qu'il y a autour de la question de la retraite, entre les forces sociales opposées que sont celles du capital et celles du travail, nous n'avons, ce gouvernement, dans cette réforme de retraite, ne cède à aucune des prescriptions qui étaient celles demandées par la droite et le patronat. Notons-le, Notons-le. Voilà. Notons-le. Et en plus, nous proposons au Parlement des avancées notables pour les femmes et nous ne touchons pas au pouvoir d'achat des retraites. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. On verra, vous allez mobiliser, on aura un débat parlementaire, mais j'assume sans difficulté et fièrement cette réforme de la retraite que le gouvernement a proposée cette semaine. Enfin, vous attendiez pas ce que je dise autre chose.
On laisse Laurence Rossignol terminer. Après, il y a Jérôme Glaise et on va pouvoir discuter.
Enfin, je voudrais dire dans les débats. Enfin, troisième sujet, parce que ce que j'observe, je suis comme beaucoup d'entre nous élu local. Membre d'un exécutif dans lequel le rassemblement de la gauche a permis à la fois de gagner des collectivités territoriales et ensuite de les administrer ensemble, d'y faire des politiques qui ont été tellement positives et rassembleuses que nous avons été élus, réélus, et voire même encore réélus dans ces collectivités territoriales que pour beaucoup nous avons pris à la droite dans les 15 ans qui viennent de s'écouler. Ce que j'observe, c'est que le rassemblement et la synthèse, la coopération positive dans nos collectivités locales se fait parfaitement. Voilà. Et que nous avons des divergences et des débats sur le plan de la politique nationale, incontestablement. Mais que dans les mairies, dans les conseils régionaux, dans les conseils généraux, dans les exécutifs où nous sommes ensemble, nous arrivons, PC, PS, Europe Écologie Les Verts, parfois même encore d'autres formations de gauche, PRG, voilà. Nous arrivons à conduire des politiques dont nous sommes partout fiers, fiers dans la manière dont on les élabore et dont on débat, fiers de ce que nous faisons et fiers du bilan que nous allons, dans les prochaines municipales, présenter aux citoyens. Donc je voudrais dire simplement que nous avons une échéance qui en a peu parlé. Nous avons une échéance qui est importante cette année, qui est l'échéance municipale. Dans cette élection municipale, nous avons dès aujourd'hui à travailler au rassemblement. Et ce n'est pas un rassemblement factice, ce n'est pas un rassemblement fictif, c'est un rassemblement qui prolonge le rassemblement qui déjà est celui qui est à l'œuvre dans les territoires. Et que nous devons aujourd'hui, et nous le disons nous, Parti Socialiste, nous proposons à l'ensemble des forces de gauche d'aborder ensemble, dans le rassemblement, ces municipales, parce que d'abord, il y a une cohérence, il y a une continuité de ce que nous faisons. Deuxièmement, il y a un message adressé aux Français, qui est celui de la capacité de rassemblement de la gauche pour changer leur quotidien, pour changer leur vie tous les jours. Et dans les collectivités locales, et la place, les politiques que nous conduisons changent la vie des gens. Voilà, quand même, au-delà de la politique nationale, c'est nous qui faisons les politiques scolaires, les cantines, les aides à la vie associative, les politiques de transformation, les politiques de transport public, tout ça, ce sont des politiques que nous conduisons au plan local et ensemble, et qu'il y a un message de rassemblement à adresser aux Français pour la préparation des élections municipales. Il y a, tu l'as évoqué très justement, une droite mobilisée, radicalisée, dont la frontière avec le Front National est de plus en plus ténue. Tu fais comme ça quand tu veux que je... Comme tu vois, j'ai plus que 2 minutes.
Non, mais là, t'es à 13 minutes.
Voilà, j'arrête dans 2 minutes. Et il y a un message de rassemblement qui est d'autant plus nécessaire et fort que d'abord, il y a des enjeux, et qu'ensuite, il est le complément de nos discussions, de nos différences, de nos désaccords au plan national. Nous avons besoin d'une gauche. La gauche, notre électorat attend le rassemblement et nous avons besoin d'être ensemble, rassemblés aux élections locales pour pouvoir assumer nos différences dans les politiques publiques nationales que nous conduisons et je ne cherche nullement à les minorer. Enfin, je voudrais dire que et je conclurai là-dessus, dans les débats que nous avons à conduire ensemble, et effectivement, nous pourrions nous voir plus souvent et de manière peut-être plus formel, nous avons aussi besoin de discuter pas simplement des sujets de la rentrée, mais du monde, de la compréhension du monde dans lequel nous sommes. On ne peut pas élaborer les politiques immédiates et le choix du président de la République du redressement productif, du redressement des comptes publics et de l'inversion de la courbe du chômage doivent se comprendre en fonction aussi de ce que nous voyons ensemble. Moi, j'aimerais beaucoup discuter avec les militants communistes. Je vais le faire avec mon homologue, parce que je suis secrétaire national chargé de l'écologie aussi. Je vais le faire avec mon homologue, avec Brami, prochainement. Mais j'aimerais beaucoup nous discuter ensemble. C'est quoi la période dans laquelle nous sommes? Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est une mutation de notre économie? Quelle est la place dans cette mutation aujourd'hui des questions énergétiques, des questions écologiques? Quelle est la place demain du travail? Comment toutes ces questions-là aujourd'hui, nous avons besoin de les aborder. Est-ce que après la crise reviendront les Trente Glorieuses? Est-ce que les Trente Glorieuses sont un monde qui est derrière nous? Est-ce que à quoi nous nous préparons? À quoi nous préparons les générations futures? Et surtout, quelle vision et quel projet et quel enthousiasme nous sommes capables de communiquer au-delà de l'année qui vient, au-delà de la préparation des municipales, au-delà de tout ça? Quelle vision future? Et le séminaire qu'a fait le gouvernement sur la France de 2025, je proposerais volontiers que ce soit aussi un sujet qui réunisse les formations politiques de gauche. Nous ne sommes pas simplement là ensemble que pour gérer ou constater nos divergences sur la gestion. Nous sommes là aussi pour porter une utopie. Or, les utopies ont été très mal menées au cours des dernières années. Elles ont été très mal menées. Chacun, après, verra la place qu'il y prend dans le bilan. Mais on peut le constater tous ensemble. Donc, quelle utopie nous construisons aujourd'hui sur quelle analyse du monde? Enfin, je voudrais un autre sujet. Je l'ai évoqué une seconde et je conclurai là-dessus. Nous avons besoin de débattre sur la compréhension du Front National. Personne n'attend personne pour faire quoi que ce soit. Mais faire ensemble et faire autrement. Bien sûr, chacun débat dans son propre formation. Mais moi, j'aimerais bien qu'on confronte au plan local. On le fait. Moi, je suis dans un département où le Front National est extrêmement fort. Extrêmement fort. Je suis élu de l'Oise. Voilà, le Front National est très fort. J'ai du mal à penser, pour regarder le Front National dans mon département, que tout cela n'est que le fait que la politique du gouvernement n'est pas totalement ajustée avec ce que les gens en attendent. Ça précède, ça vient de bien plus loin. Tu vois, bien plus loin. Ça fait des années que j'observe la montée du Front National dans mon département. Et on en discute avec les élus communistes de mon département. Et on essaye de voir. Nous avons besoin de comprendre ensemble à quel mouvement profond correspond la montée du Front National, comment on y répond, et comment on affronte cette espèce de fusion, et j'ai fini, cette fusion de la droite et de l'extrême droite qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, et qui fait que de toute façon, après la gauche, si la gauche échoue, ce ne sera pas une autre gauche qui viendra au pouvoir, mais ce sera une droite avec une autre droite que celle que nous avons connue.
Jérôme, si tu pouvais le faire dans un format de 10-12 minutes, c'est bien.
Je vais essayer de le faire. Tout d'abord, merci de l'invitation d'Olivier, parce qu'à ma connaissance, c'est quand même la première discussion publique depuis l'élection de François Hollande entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste Français et Europe Écologie Les Verts. On a eu des discussions en privé, mais publiques.
Non, il y a eu à la fête de l'Ouvrage.
Non, pas à ce niveau-là. Il y a eu des débats, mais...
Avec Pascal Durand.
Avec des représentants. Il n'y avait pas le Parti Socialiste de représenter quand Pascal Durand est venu. C'est différent. Alors après, ce qui nous relie avec le Parti Communiste Français, c'est qu'on est les seuls à avoir une discussion au moins bilatérale avec l'ensemble des forces de gauche, notamment le Parti de gauche. Donc on n'a pas encore fait de débat public à tout le monde, mais le Parti de gauche est à fin ici, mais on a tous des discussions bilatérales avec le Parti de gauche, parce que pour nous c'est important donc de rassembler l'ensemble de la gauche, parce que sinon on va tous, et là-dessus je pense que tous les trois on est assez d'accord, on va tous vers un échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative possible à gauche, la seule alternative qui se construit, malheureusement, elle est du côté de la droite extrême et du côté du Front National. Et que l'échec du gouvernement Hollande serait l'échec de l'ensemble de la gauche, et je pense que là-dessus on est tous d'accord. Alors pour ce qui est d'Europe Écologie Les Verts, nous sommes très inquiets. Nous avons pris une position en juin dernier au niveau de notre Conseil national, donc sur le changement de cap. Il faut quand même savoir que pour Europe Écologie Les Verts, on a pris position contre le traité budgétaire européen, contre l'ANI, contre le crédit d'impôt dans sa forme de d'aide aux entreprises à travers donc des remboursements sur les bas salaires. Et donc, nous sommes vraiment dans une situation assez critique sur des réformes majeures du gouvernement. Mais nous restons encore dans ce gouvernement parce que pour nous, la stratégie que nous, on a utilisée, c'est faire la pression de l'intérieur, donc à travers donc la majorité gouvernementale, alors que le Parti communiste français, c'est plutôt à travers la majorité parlementaire. Donc, ce changement de cap, il faut qu'il arrive à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que les 6 mois à venir vont être un moment très important de savoir ce qui se passe. D'autant plus que nous avons un congrès en fin d'année. Et il va falloir à un moment donc savoir si alors, pour le prémisse de la croissance, puisque tu as évoqué donc le fait que les 0,8% de croissance du deuxième trimestre, nous on n'y croit pas sur le fait que ça puisse continuer pour des raisons tout à fait objectives, c'est-à-dire que les 0,5% donc, sont essentiellement dus donc, à un rebond de la consommation et pas du tout l'investissement. Aujourd'hui, l'investissement en France est du niveau des années 2000. Donc on a pratiquement 13 ans de retard sur les questions d'investissement. Et même ce qui a été produit donc en deuxième trimestre de 2013, c'est 452 milliards. Ça nous ramène donc à des trimestres donc de 2007. Donc on est vraiment très très en retard par rapport donc à la situation économique. Alors par rapport à ça, il faut qu'il y ait un rebond. Le rebond, donc d'abord la question des retraites. Peut-être sur la Syrie, puisque tout le monde a commencé par la Syrie. Alors, le sujet syrien, c'est un sujet qui nous interpelle beaucoup. Personnellement, je suis le dossier pour l'exécutif d'Europe Écologie Les Verts, et nous sommes en contact avec donc les deux oppositions, c'est-à-dire à la fois donc la coalition syrienne. Nous avons invité donc l'ambassadeur Monzer Marcouz à nos universités d'été. Et je suis aussi en contact donc avec Etam Mana, qui avait été invité donc à l'université d'été, qui est lui membre de la coordination. Donc les deux oppositions syriennes sont actuellement donc en affrontement, ce qui est assez gênant pour trouver une issue politique donc à ce conflit. Et donc aujourd'hui, sur la question donc des armes chimiques, il faut vraiment que toute la lumière soit faite sur qui a utilisé les armes chimiques. Les armes chimiques, donc, elles ont été utilisées là-dessus, il y a la preuve. La question est qui les a utilisées. S'il s'avérait que c'est vraiment le régime qui a utilisé les armes chimiques, il faudrait automatiquement qu'il y ait une sanction, à déterminer la nature de la sanction, parce qu'on ne peut pas admettre qu'aujourd'hui, l'arme chimique soit une arme conventionnelle. Si on commence à accepter que dans un conflit, on puisse utiliser des armes chimiques, on risque de rentrer dans une situation après ingérable ici et ailleurs. Et donc là-dessus, il faudra vraiment qu'il y ait une sanction. Mais d'abord, il faut vraiment qu'on ait l'assurance que c'est vraiment donc le régime de Bachar al-Assad qui a utilisé les armes chimiques. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de recul par rapport à cela, notamment Obama donc a reculé et a demandé à ce qu'il y ait un vote du Congrès pour l'utilisation donc des forces militaires. Il faut savoir aussi que, théoriquement, d'après les informations que j'ai pu avoir, les Russes ont fourni des informations aux Américains à la fois sur les photos satellites et à la fois sur l'enregistrement des échanges téléphoniques qui montreraient que ce n'est pas le régime de Bachar al-Assad qui a utilisé les armes chimiques. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de cette hypothèse-là. Le Guardian l'a évoqué il y a quelques jours dans un article. Donc voilà. Donc on voit bien qu'on est dans une situation qui est bien plus complexe que ce qui était prévu au départ et que donc il faut faire attention. Alors il faut faire attention, mais malheureusement on sait que le régime de Bachar al-Assad est capable d'utiliser les armes chimiques dans une position donc défensive, s'il recule militairement. Donc l'hypothèse que le régime ait utilisé les armes chimiques est une possibilité. C'est pour ça que nous, on a pris une position par rapport à ça, qu'il est très clair que s'il s'avérait que c'était le régime, l'intervention militaire est tout à fait justifiable. Donc c'est la position qu'on a, nous, par rapport à ça. Alors sur les sujets français, sur la question des retraites, on est très mal à l'aise.
Parce que... est là pour vous soulager.
Parce que on est parti dans une position où, comme les autres sujets importants, donc le TSG, l'ANI, le crédit impôt, d'avoir une position donc de vote contre. Alors notre position n'est pas encore déterminée, elle sera déterminée donc d'ici 15 jours donc à notre Conseil national, mais nous avons fait un communiqué de presse qui montre notre malaise par rapport à cette situation. Alors, on reconnaît qu'il y a des avancées. On ne peut pas ignorer sur les questions de la pénibilité, sur les questions d'égalité homme-femme, sur la question de la prise en compte donc, des stages. C'est quand même une avancée qui n'existait pas. Donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, ça peut être de manière insuffisante, mais ça existe, c'est dans le projet de loi. Par contre, là où on a une difficulté, c'est sur la question de l'allongement de la durée de cotisation. Ça veut dire qu'on s'y est opposé. Pour nous, en tant qu'écologistes, la question du partage du temps de travail est une question très importante, et notamment donc à la fois donc hebdomadaire, mais aussi donc sur la durée de travail, donc tout le long de la vie active. Et donc là-dessus, nous on s'oppose donc à cet allongement, et donc on aimerait bien qu'il y ait des alternatives par rapport à ça. Mais la question aussi de revenir sur des questions, enfin, de la réforme Fillon, de la réforme Juppé, donc il y a deux éléments importants. Donc, d'abord, la durée légale, aujourd'hui, elle est passée à 62 ans. Elle n'est pas à 60 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que les générations d'avant 1955 qui pourront accéder donc, à la retraite à 60 ans. Les autres, il y a donc dans la réforme, donc la dernière réforme Fillon, ça va s'étaler jusqu'à 62 ans. Donc on n'a pas tranché encore sur la position de est-ce qu'on revient à 60 ans ou pas. Deuxième réforme, c'est celle de la réforme de 93, c'est celle sur l'indexation des pensions de retraite. Aujourd'hui, c'est sur l'inflation. Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur le salaire moyen? Parce qu'aujourd'hui, le principal difficulté par rapport aux retraités, c'est que l'indexation donc, sur les prix fait que le niveau de vie des retraités va diminuer donc avec les années qui passent. Alors aujourd'hui, bon, le niveau de retraités augmente parce que, tout justement, ils ont eu des salaires assez élevés durant leur vie active. Donc là aussi, on a un débat, nous, par rapport à ça, si on revient à ça. Alors si on revient, bien sûr, à ces deux réformes, et surtout donc l'indexation, se pose une question du financement. Et donc nous, là-dessus, donc, on n'a pas exclu la question donc, de l'alignement de la CSG, parce qu'il faut quand même trouver des sources de financement. Alors, on est bien sûr d'accord qu'il faut taxer le capital, mais vu le coût que cela représente, ça risque d'être insuffisant pour pouvoir financer donc cette partie.
Vous pourrez réagir. Non, on n'interpelle pas, Jérôme.
On pourra rentrer d'un point de vue technique. C'est très difficile de taxer le capital car le capital s'en va.
Quelques échecs, je partage.
Continue.
Alors, sous cette question donc, du financement donc, des retraites, alors, pour la question, je comprends que ça pose un problème. L'idée de la CSG, d'augmenter la CSG, c'est bien sûr avec la contrepartie que le niveau de vie des retraités augmente par un autre canal. Nous, on a toujours été pour que les hautes pensions de retraite participent à la société nationale. C'est notre position de tout le temps. On est bien sûr que pour les bas retraites, elles ne doivent pas être concernées par la CSG. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la CSG, 50% des retraités ne payent pas la CSG. C'est ça la réalité. On peut augmenter aussi techniquement la question du plafond à partir de quel moment les retraités sont soumis à la CSG, de façon à élargir donc tous les basses retraités donc à ne pas payer la CSG. Techniquement, c'est ça. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, tous les retraités payent la CSG. Alors, l'autre problème qu'on a aussi, c'est la segmentation des dossiers. Pour nous, tous les dossiers de protection sociale doivent être discutés ensemble. Il y a la réforme juridique qui va venir. Il y a, bien sûr, il y a la question donc de tout ce qui est la branche famille. Nous, on pense que c'est une erreur d'éclater tous ces sujets. Il y a aussi la question du financement de l'autonomie. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui concerne l'emploi, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la meilleure solution pour assurer le financement des retraites, c'est de réduire le chômage. Donc, le fait de ne pas réfléchir de manière globale, forcément, on va sur des échecs, on va sur des impasses et on va sur des difficultés dont on pourrait donc se passer. Alors, l'autre sujet important, ça va être bien sûr donc, la question de la croissance et donc de la loi budgétaire à venir. Donc, pour le moment, donc, on a exprimé pas mal d'inquiétudes, notamment sur le budget donc, de l'écologie, donc, qui est pour le moment en baisse de 0,7%. Et puis, de manière générale, donc, dans notre motion de juin dernier, donc, la logique austéritaire, donc, on considère que c'est un échec. Alors, c'est d'autant plus un échec que nous, on est très fédéralistes et très européens, c'est qu'en même temps, donc, que le budget européen de chaque pays, donc, est un budget austéritaire, on fait la même chose à l'échelle européenne. Et donc, le fait que le budget européen diminue, pour nous, c'est vraiment un point de clivage très important et qu'on aurait voulu aimer que la politique de François Hollande soit différente au niveau de l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'une des premières mesures qu'il a dit, c'est les 120 millions d'augmentation donc, du budget européen. Or, depuis, ces 120 millions ont totalement disparu, et en plus, donc, on réduit le budget européen. C'est-à-dire que la marge de manœuvre à l'échelle européenne donc, diminue, et comment on va financer donc, d'autres sujets importants qui n'ont pas été abordés ici, notamment la question de la transition énergétique. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, je vais peut-être conclure là-dessus. Pour nous, la question de la transition énergétique, c'est une question centrale et notamment sur la conclusion de Laurence, c'est sur quelle est la nature de la crise aujourd'hui. Pour nous écologistes, la nature de la crise aujourd'hui, elle n'est pas financière, elle n'est pas écologique, c'est pas en moralisant la finance, c'est pas donc en faisant des politiques de relance qu'on va résoudre donc la crise. Nous, la crise aujourd'hui est une crise profonde, est une crise écologique, c'est-à-dire que les mécanismes d'accumulation du capital sont aujourd'hui donc enrayés par la crise écologique. Pourquoi ? Premier élément, c'est la raréfaction des ressources naturelles. Le fait qu'il y a de moins en moins de pétrole, le fait que extraire les autres, même les métaux, tout ça, donc, devient de plus en plus coûteux. Ça entraîne donc des difficultés donc, à produire. Un surenchissement des coûts. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe donc avec les Chinois, qui sont le premier lieu de production du monde, qui sont des difficultés donc à s'approvisionner en ressources naturelles, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient donc, que ce soit l'eau, que ce soit les minéraux, que ce soit, etc. Il y a une difficulté majeure à assurer donc les approvisionnements en ressources naturelles. Donc il faut qu'on change de modèle de production, parce que le modèle de production dans lequel on est aujourd'hui va à l'impasse et va être un échec. Deuxième élément important aussi, c'est les conséquences de l'émission des gaz à effet de serre sur les changements climatiques. Aujourd'hui, donc, on est dans une situation où les rendements agricoles donc, se cassent la figure à cause des changements climatiques. Donc se posent des questions de crise alimentaire, se posent des questions de production agricole pour assurer donc l'alimentation de l'ensemble de la planète. Donc ça, la difficulté de ce type de changement, ce sont des changements à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Donc il faut à tout prix que l'Europe, que la France soient en avance sur ces questions de transition énergétique, parce que c'est une question pas de survie, mais des questions donc de continuer à ce que le progrès, à ce que le progrès social donc, puisse être partagé par tous ici et dans les pays du Sud. Et donc pour ça, la loi de transition énergétique va être importante, et bon, notamment on va être très... On va regarder donc la contribution climat-énergie, donc sous quelle forme elle va être. Parce que pour nous, c'est pas un impôt, la contribution climat-énergie. Pour nous, c'est un changement de vision du monde. La contribution climat-énergie, c'est de prendre en compte toutes les émissions de CO2 qui perturbent le climat et qui ont des effets après sur la production des pays. Voilà. Donc c'est pour ça que pour nous, donc ici, il faut qu'à tout prix, donc, on voit la loi de transition énergétique pas comme une loi secondaire, mais par une loi de changement de modèle de production.
Alors, il nous reste à peu près une demi-heure. Ce que je vous propose, c'est que un maximum d'entre vous puissent intervenir, essayer de le faire dans un format qui permet l'expression du plus grand nombre, essayer de ne pas répéter des choses qui pourraient être exprimées, que vous partagez, qu'on ait quelque chose d'évolutif et qui se construit. Et après, je propose à ce qu'on puisse avoir un mot de réaction, qu'on ait 2-3 minutes à la fin chacun. On y va.